Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur la première. Bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Catherine Ax au micro. Jacques Nizin, vous avez fait votre temps militaire où, vous ? Allez, 30 minutes pour débattre de ceci.
Alors, hé, on déjeune pas ?
Les couleurs d'abord.
Quelles couleurs ?
Eh ben, les couleurs. Ici, le premier mouvement du matin, c'est d'envoyer les couleurs.
Allons, bon.
C'est même pas envoyer les couleurs. Je vais les envoyer, moi. 6 points derrière moi, vous allez présenter les armes. Prenez-moi le fusil. Mais rendez-moi mes couleurs, bon Dieu. Mais donnez-moi mes couleurs, quoi. Où avez-vous fait votre temps?
Quel temps?
Votre temps de service militaire.
Je me rappelle plus l'avoir fait.
Ah, vous ne vous rappelez pas? Eh ben, mon petit, on va combler cette lacune et tout de suite.
Tarou! Apo. Tarou! Apo.
Un, deux, voilà, on l'a reconnu, l'incroyable couple Gabin-De Funès, avec un Gabin qui tient absolument à ce que De Funès fasse son temps militaire. Service mais citoyen, celui-là est aujourd'hui, son utilité depuis qu'un certain service militaire où l'on apprenait à servir son pays a disparu. Faut-il alors réintroduire cette notion de citoyenneté chez les jeunes? Comment se sentir citoyen? Comment mieux vivre ensemble? Comment intégrer les jeunes à la société? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Car autour de cette table, avec moi pour débattre de tout cela, François Ronvaux, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la plateforme pour le service citoyen. Paul Robic, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 25 ans et vous avez fait votre service citoyen cette année.
C'est ça.
Avec Brunette, bonsoir Brunette.
Bonsoir.
Vous avez vous aussi fait votre service citoyen que vous venez de terminer en septembre. Vous allez nous raconter tout cela. Et au bout du fil, nous aurons avec nous André Lejoly, officier général à la retraite, qui en 1990 travaillera au cabinet du ministre de la Défense nationale sur la suppression du service militaire au profit d'une armée de métier. Alors si nous parlons du service citoyen, on ne peut pas ne pas évoquer le service militaire. En quelques mots, né sous l'occupation française en 1798, il dure alors 8 ans, fonctionne au tirage au sort, vient ensuite la règle d'un fils par famille, les familles aisées s'en tiraient souvent en payant un remplaçant, puis est instauré le service universel duquel des jeunes gens tentaient souvent de se faire réformer. Bref, si l'idéal de certains était de servir leur pays, on ne pouvait pas réellement dire que c'était le cas de la majorité des miliciens. André Lejoly, vous êtes avec nous ce soir, alors dites-nous, racontez-nous, est-ce que ces jeunes-là étaient motivés à l'époque?
Je n'ai pas l'impression du tout qu'on puisse dire qu'il y avait chez les soldats un élan patriotique. Donc il y avait plus le souci d'échapper au service militaire dans la mesure où tous les bras étaient nécessaires dans une famille pour apporter de l'argent. Mmh. Vous vous souvenez, il n'y avait pas de sécurité sociale. Je vais prendre une famille de mineurs. Si un fils allait faire son service militaire, c'était deux bras qui manquaient pour apporter de l'argent à la maison et travailler à la mine avec le papa. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était perçu comme prestigieux, héroïque. Ça l'a peut-être été, mais encore faudrait-il interroger les historiens à ce niveau-là, pendant et juste après la guerre 14-18, où là, évidemment, il y a eu cette flambée de patriotisme, la Belgique, la petite Belgique neutre qui se fait envahir par l'ogre allemand. Il y a eu une fièvre patriotique autour de la figure du roi Albert, de la reine Élisabeth. Et là, il est très probable que les conscrits aient obéi, pour une partie d'entre eux en tout cas, à un élan patriotique.
Si certains le prenaient alors avec philosophie, se disaient « bon, bah, puisqu'il faut le faire, je le fais et j'essaye de bien le faire », il en ressortait quand même in fine de bons souvenirs et des rencontres. André Lejoly, c'était ça aussi le service militaire, finalement, un brassage social utile.
L'utilité, elle était réelle. Là, je peux en témoigner. C'était vraiment un brassage social. C'était pas ce que demandait. Le milicien ne venait pas pour le brassage social. Mais il y était soumis d'une façon ou d'une autre. Bon, les miliciens, bon, vous savez que beaucoup d'universitaires ne voulaient pas devenir officiers de réserve malgré qu'on les sollicitait pour le faire, simplement parce qu'il fallait faire 15 ou 18 mois. Ils demandaient à rester soldats pour ne faire que 12 mois. Bon, c'était 15 mois en Belgique, 12 mois en Allemagne. Donc, pas mal d'eux faisaient leur service militaire en Allemagne pour qu'il soit plus court, et comme soldats. Donc, on avait des chambrées qui étaient tout à fait mixtes au niveau social. Donc, moi, j'ai eu des pelotons. Mon premier peloton, on était une trentaine dans un peloton à l'époque. J'avais une bonne vingtaine de miliciens là-dedans. J'avais de tout. J'avais des universitaires, j'avais des ouvriers, j'ai eu des illettrés. J'avais de tout. Et tous ces gens vivaient en chambrée de 8 à l'époque, dans mon régiment. Et donc, il y avait fatalement ce brassage social. J'ai vu de l'entraide, j'ai connu l'entraide, par exemple, avec un des miliciens illettrés qui faisait relire ses lettres par un de ses copains de chambrée qui était universitaire. Ce n'est pas du roman, ça, c'était de la réalité. Donc, non, le brassage social était une réalité. Mais c'était à leur corps défendant, c'est pas pour ça qu'ils y venaient. Mais ils étaient contents de l'avoir fait après coup. Et certainement les universitaires. Ce qu'appréciaient beaucoup les soldats qui avaient fait leur service militaire et qui l'avaient fait avec la bonne volonté relative, c'était l'esprit d'organisation, la discipline, l'ordre et la méthode.
Et ce service militaire sera abandonné en 1995. On évoque alors une distorsion entre le vécu de l'armée et l'évolution de la société. Puis, on parle de discrimination homme-femme, des hommes au service pendant 9 mois et des filles qui peuvent, elles, directement entrer dans le monde de l'emploi, sans oublier discrimination sociale, des dispenses et des exemptions. Un jeune sur 4 preste réellement son service militaire. Et depuis, que reste-t-il ? Les termes ont changé, on ne parle plus de mourir pour son pays, on est plutôt dans la citoyenneté et le service à la société. Alors, de la discipline, de l'ordre, de l'utilité, sans doute, c'est ce que recherchent les jeunes que nous avons autour de cette table et qui vont nous raconter leur histoire. Mais François Ronvaux, vous, animateur dans l'âme, directeur de la plateforme Service Citoyen depuis 2010, vous êtes, vous, un des derniers objecteurs de conscience puisque, en 92, vous avez choisi de ne pas rejoindre le service militaire. Racontez-nous, parce que c'est la base de votre formation, finalement.
En tout cas, de ma motivation à aujourd'hui, développer le projet du service citoyen en Belgique. L'objection de conscience, mais ça a été un grand moment quand même, ça a été un grand moment de ma vie, à savoir que c'était vraiment pour moi la première expérience ancrée dans le réel, on va dire, dans une association qui m'accueillait et qui m'a fait découvrir beaucoup de dimensions, on va dire, de l'activité qu'elle menait. À l'époque, c'était de l'éducation à l'environnement. En tout cas, ça a été pour moi un excellent tremplin, une excellente initiation, on va dire, rentrée dans le monde de la vie active. Alors, je voudrais peut-être relever ce qu'a dit Monsieur Le Joly. Parce que je pense que, moi forcément j'ai fait l'objection de conscience, donc je n'étais pas favorable à l'option militaire, mais il faut reconnaître qu'il y avait une qualité, et ça c'est unanime au service militaire, c'était justement ce brassage social, cette mixité qui était bien réelle, et c'est une option, un choix que l'on essaye de reproduire dans le cadre du service citoyen. Alors, et c'est très important, si vous voulez, dans la composition des promotions, de faire en sorte d'être proactif de manière à ce que autour du programme et coexiste, co-réalise un ensemble très diversifié de jeunes.
D'accord. Alors, justement, concrètement, comment est née cette plateforme et pourquoi ? Et comment vous êtes-vous tombé sur cette plateforme ?
Alors, cette plateforme est née à l'initiative de 4 associations qui travaillent dans le secteur de la jeunesse et qui se rendaient compte qu'il y avait un gap, un trou entre, on va dire, la fin du secondaire, le début de la majorité et l'entrée dans la vie active. Et c'est quelque chose que l'on constate un peu partout dans le monde, en Europe. La sociologie des jeunes a changé. Aujourd'hui, on peut encore, à 30 ans, être chez papa-maman en train de se poser la question de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Et donc, il manque, si vous voulez, de dispositifs structurants dans cet entre-deux, dans cette tranche d'âge, entre 18, 25, voire peut-être plus, pour certains, qui permettent justement de de proposer une transition, une maturation vers le réel, vers la vie active, et aussi une reconnaissance par rapport à une utilité sociale.
Par contre, il n'y a pas encore de cadre légal.
Alors non, alors c'est tout l'objet et le combat, j'ai envie de dire, de la plateforme pour le service citoyen, c'est de faire en sorte qu'un jour en Belgique existe un statut légal reconnu pour des jeunes qui veulent s'engager au service de la collectivité, comme en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, où chaque année, ce sont des dizaines de milliers de jeunes. Je peux citer quelques chiffres. Hein. En France, 40 000 en 2014. En Allemagne, 77 000 en 2013. Plus de 40 000 cette année en Italie. On voit que c'est un véritable projet de société.
Et chez nous, combien ?
Et chez nous, allez, 200 si je compte les différentes formules.
Mais c'est tout récent. On en parle seulement
maintenant. Et sans statut, si vous voulez. C'est ça le problème. Le jour où on aura un statut reconnu à travers une loi au niveau fédéral qui cadrera ce dispositif, et à ce moment-là, ce sera des cohortes entières de milliers de jeunes. Parce que les jeunes sont demandeurs. Un autre chiffre très intéressant, en France, pour 40 000 places, il y a 125 000 demandes. Les jeunes sont demandeurs de ce type de programme.
Comment vous contactent-ils ? Comment ont-ils vent de cette plateforme Internet ? Et puis on donne un coup de téléphone et voilà, une séance d'information et puis ça part comme ça ?
Oui, globalement, ils entendent parler du projet de la plateforme pour le service citoyen, donc du service citoyen via un spot radio, via une affiche, via des jeunes qui l'ont réalisé.
Via notre émission.
Voilà, via votre émission par exemple. On peut déjà tout de suite dire qu'il y a une nouvelle promo qui démarre en novembre et qui reste quelques places. Voilà, les jeunes entendent parler du service citoyen, ils nous contactent, on propose un rendez-vous à la plateforme et on explique le programme. Il n'y a pas de conditions, donc on accepte tous les jeunes, sans exception. La seule chose qu'on demande aux jeunes, c'est d'avoir un minimum de motivation par rapport au projet dans lequel il va s'engager.
Combien de temps vont-ils s'engager ?
Alors, le projet, il consiste en un engagement pendant 6 mois, à temps plein, au service de la collectivité, au service des autres, dans des projets qui sont soit environnementaux, soit sociaux, soit éducatifs, soit d'aide aux personnes. Voilà, toute une série de projets. Et le dispositif, on va dire, alterne des temps de mission. Nous, on propose 80%, donc 4 jours par semaine de mission, ancrés dans un organisme d'accueil où un tuteur accompagne le jeune dans la réalisation
avec
de sa mission.
Avec tous vos partenaires, vous avez votre réseau.
On a plus de 200 partenaires, de fait. Et une alternance donc, de 7 ans de mission et des temps de formation, un jour par semaine, tous les vendredis. Formation générale à la citoyenneté, à l'interculturalité, à la consommation responsable, à toute une série de thèmes de formation, des temps d'échange entre jeunes, des temps d'évaluation, des temps de maturation et d'orientation aussi. Voilà, en gros, le programme. Le tout en recevant une indemnité de 10 euros par jour, ce qui fait à peu près 200 euros par mois, mais qui est cumulable à d'autres indemnités, comme les indemnités de chômage ou les indemnités de CPS, avec une assurance et une reconnaissance, puisqu'on reçoit une attestation dans une cérémonie, on va dire, en grande pompe au Parlement fédéral, en fin de service citoyen, 6 mois plus tard.
Alors je me tourne vers les jeunes. Brunette, vous avez 25 ans, vous avez suivi une formation dans l'administratif. Et puis un jour, vous avez décidé, moi je vais faire quelque chose pour cette société et je vais m'engager dans mon service citoyen. Comment avez-vous eu vent de ce service et comment ça s'est déroulé pour vous ? Racontez-nous.
La première fois que j'ai entendu parler du service citoyen, c'était via un spot radio. Et ensuite, je me suis présentée à la séance d'information et j'ai directement commencé à chercher une mission. Ma mission principale s'est déroulée au Centre ressources sexualité et handicap à la Fédération laïque de centres de planning familial. Et ma mission complémentaire, je l'ai choisie à la SBL camp de partage. Donc voilà.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce service citoyen, cette formation ?
Ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Ma mission principale m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances sur la sexualité des personnes handicapées, sur le handicap. Et aussi, ça m'a permis aussi d'avoir un certificat de reconnaissance et de participation. Et aujourd'hui, c'est déjà un grand plus dans mon CV, dans ma recherche d'emploi.
Très bien. Et alors, on ne peut faire qu'un service, hein, c'est bien cela. On ne peut pas en faire deux. On a tellement aimé que François Ronvaux, non, c'est...
Alors, si vous voulez, dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'on puisse en faire deux, mais aujourd'hui, comme les moyens sont déjà tellement limités et qu'il n'existe pas de statut, ce serait un petit peu injuste par rapport à tous ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire, de proposer à un jeune de le faire deux fois. Voilà. Dans la plupart des pays, on peut le renouveler une fois, mais parce qu'il est reconnu, il est institué. En Belgique, on pense que c'est pour l'instant, en tout cas tant qu'on n'a pas de statut, ce serait pas juste.
De toute façon, les jeunes qui sont là autour de nous sont trop vieux. 25 ans tous les deux, Paul Robic donc 25 ans. Vous avez un parcours un peu particulier aussi. Comment avez-vous connu le service citoyen et pourquoi l'avoir fait ?
J'ai eu vent du service citoyen dans le tram, en fait, simplement une affiche. Du coup, j'ai appelé assez rapidement le service citoyen et j'ai pu, en quelques temps, rencontrer quelqu'un pour m'expliquer les différentes formations qu'il nous proposait. Du coup, j'ai fait ma mission principale au Potelier de Pilif, une ASBL, un centre de jour, en fait, pour personnes en situation de handicap. Le handicap était un monde que je ne connaissais pas du tout et qui m'a énormément plu, en fait. C'était un travail très humain.
C'est un peu ce que vous recherchiez parce que vous avez vécu des choses difficiles, vous avez eu un accident, racontez-nous votre formation. En gros, ce pourquoi vous étiez formé, vous ne pouviez plus le faire.
C'est ça, exactement. Je me suis cassé le dos, en fait, et je ne pouvais plus exercer mon métier.
Qui était
jardinier. Et donc, plutôt que de continuer à rester chez moi, à ne rien faire, j'ai décidé de me rendre utile et de servir la collectivité.
Donc, pendant 6 mois.
Pendant 6 mois, c'est ça.
Vous aussi, vous avez rencontré pas mal de personnes, notamment Brunette. Donc, ça vous a apporté énormément.
Ça m'avait porté énormément, aussi bien sur le plan social que sur ma propre maturation, en fait. Comme je l'ai dit, je ne connaissais absolument pas le monde du handicap et maintenant, je veux dire, j'adore ça, je travaille avec eux maintenant. Et
c'était pas trop difficile de tomber dans un monde qu'on ne connaît pas, il fallait quand même se former, vous aviez peur de faire des erreurs ou on vous a fait confiance ?
Au début, oui, j'ai eu peur de faire quelques erreurs, mais assez rapidement, on m'a fait confiance, j'ai très rapidement trouvé ma place et voilà.
Je dois dire que vous êtes un bel exemple de cette plateforme puisque vous venez de me dire que ben, bravo, vous avez décroché un emploi en fait.
Merci, oui.
Dites-nous.
Exactement, à la fin du service citoyen, le potelier de Pilif m'a proposé un mi-temps que je me suis empressé d'accepter.
Bravo. François Ronvaux, voilà, ce sont de belles histoires. Mais alors, certains disent, c'est pas les plus gentils avec vous, mais que ce serait peut-être aussi une manière détournée d'occuper des jeunes chômeurs et qu'il y aura un calcul économique derrière qui marcherait sur les plates-bandes d'autres dispositifs déjà en place. C'est vrai ça ou c'est pas possible ?
Je ne pense pas qu'on marche sur les plates-bandes de dispositifs déjà en place. Alors, occuper des jeunes chômeurs, ce n'est pas le but du programme. Mais si, pour avoir été chômeur dans une période de ma vie, je sais à quel point c'est un cercle qui peut être vicieux et qu'on peut y développer une image négative de soi. Et je pense que le service citoyen, s'il peut permettre à des jeunes chômeurs, au contraire, d'être valorisés, d'avoir une utilité sociale, de prendre confiance en eux, et comme nos deux jeunes ici viennent de témoigner, d'être un tremplin vers un ancrage dans la vie active, moi, ma foi, je n'y vois que des avantages. Oui.
Non, je vous laisse finir, pardon.
Mais non, vous pouvez développer plus ceux qui disent sur quelle plate-bande est-ce qu'on marcherait. C'est quand même intéressant d'aborder le sujet.
Mais ce serait faire travailler à moindre coût des gens qui passeraient leur temps à ne rien faire d'autre, entre guillemets, mais en même temps, il faut aussi certaines compétences. Donc ça peut être
alors,
un peu déloyal.
Soyons clairs. Il y a un risque. Si le dispositif n'est pas bien pensé et pas bien mené, il y a un risque d'instrumentalisation d'un certain nombre d'organisations qui vont voir dans ce jeune une ressource et qu'ils vont exploiter, on va dire. Mais c'est là justement tout l'intérêt d'avoir un cadre structuré où régulièrement on a des contacts avec les jeunes, donc des temps de formation réguliers, où nous avons un tuteur présent dans l'organisation d'accueil que nous avons formé et qui est le garant de la bonne réalisation de la mission et pas de son détournement, avec une évaluation régulière. Et on a aussi toute une série de balises, j'en cite quelques-unes, obligation de moyens, mais pas de résultats. Hein, le jeune met son énergie, son temps au service des autres, mais n'est pas obligé d'atteindre des résultats, on va dire, comme dans un emploi. Pas plus de 25% de travail administratif. Hein. Il peut faire des photocopies, il peut servir un café, mais il ne va pas faire ça toute la journée. Mm-hmm. Hein, il ne va pas être utilisé. Il va être
utile, mais pas utilisé.
Voilà, merci pour la formule, je la retiendrai parce que je ne la connaissais pas, elle est très très bien.
Cadeau.
Voilà. En gros, il y a d'autres balises, mais je veux dire, il faut le reconnaître, hein, il faut parler franchement, c'est un risque. En tout cas, nous, à la plateforme, on est très conscients de ce risque et je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et sur l'ensemble des missions qu'on a déjà développées depuis 5 ans, on a 5 ans d'expérience maintenant en Belgique, il est arrivé 2 fois que nous devions clôturer une mission, pas parce que le jeune la clôture, mais parce qu'on sentait que l'organisme se dirigeait dans une voie qui ne nous plaisait pas, qui était une petite main. Quoi.
Ça va, mais c'est dans une faible mesure.
Oui, et puis surtout, on l'a clôturé parce qu'on pouvait contrôler, parce qu'on pouvait vérifier, si vous voulez, l'adéquation entre le projet et sa réalisation.
Je me tourne vers André Le Joly au téléphone, notre officier général à la retraite. Alors André Le Joly, un service citoyen sur le papier, vous adhérez ?
Je crois qu'il serait même urgent d'introduire cette dimension d'un service à vocation citoyenne au service de la cité, au service des citoyens, au service des autres, pour retrouver ou pour recréer un lien social entre les jeunes et la société. C'est un peu cette génération. C'est plus Game Boy maintenant, hein, c'est
Facebook,
smartphone,
oui, les réseaux sociaux,
vidéo. Une jeunesse qui se coupe de la société, qui s'isole de la société, qui s'isole des réalités dans des mondes virtuels, pour finir, hein, que ce soit Facebook ou autre chose. Et là, si on n'oblige pas, s'il n'y a pas une dimension d'obligation, on n'y arrivera jamais. C'est inutile de demander aux jeunes, est-ce que vous êtes d'accord de sacrifier, allez, je vais dire, 6 mois de votre temps pour vous occuper de vos proches ?
Pour vous, il faut que ce soit obligatoire. Ça ne peut pas être.
Moi, il faudrait que ce soit obligatoire. Ça, c'est mon avis. Hein. Il faudrait vraiment faire une étude, mais alors quelque chose d'approfondi, avec l'aide des académiques, avec l'aide des gens de terrain, avec l'aide de tout le secteur non marchand, pour définir ce qu'on pourrait faire en 6 mois d'efficace au profit de la société avec nos jeunes et en tenant compte du nombre de jeunes qui sont sur le marché. Parce que tout ça, c'est bien, hein, mais ça veut dire un nombre de jeunes qui est quand même assez considérable fois un nombre de mois, fois de l'argent, fois de la formation et des formateurs.
Alors, François Ronvon, une réaction ? Le service obligatoire ? D'aucuns disent qu'il faudrait, ou en tout cas André Le Joly est d'accord avec ça, mais qu'en pensez-vous, vous ?
Écoutez, c'est une question passionnelle qui a le gros défaut de faire passer à côté du débat, finalement. Parce qu'en fait, le débat de savoir si un service citoyen doit être obligatoire ou volontaire, c'est le débat de la liberté individuelle. Et ce n'est pas le débat du service citoyen. Nous, on pense que dans tous les cas, à court et même à moyen terme, en Belgique, il faut un service citoyen sur des bases volontaires, avec une montée en charge progressive. Si déjà on proposait à 1% de la tranche d'âge de réaliser un service citoyen, ce serait 1300 jeunes. 10%, ce serait 13 000 jeunes. Déjà, avant de placer 13 000 jeunes, d'avoir 13 000 associations, 13 000 projets qui fonctionnent bien, ben on se retrouve à une échéance d'une dizaine d'années. Et alors peut-être, à ce moment-là, poser la question sociétale de savoir si c'est un dispositif qui doit être obligatoire ou volontaire. Mais poser la question de l'obligation aujourd'hui, c'est quelque part couper l'herbe sous le pied du projet, c'est empêcher le projet de se développer. Parce que ce serait impossible, c'est presque 1 milliard d'euros de fonds à pouvoir mettre en œuvre et surtout ce serait 125 000 projets à développer du jour au lendemain. Non, ça n'a pas de sens, d'autant que si on le développe progressivement, ben justement on peut évaluer le projet et faire en sorte que la qualité suive la quantité, ce qui n'est pas toujours évident avec ce genre de projet. En France, c'est un des risques, hein. Donc en France, ils ont grandi très très vite et donc il y a un certain nombre de de petits défauts qu'ils essayent de rétablir, mais globalement, allons-y progressivement.
Et puis si ça devient obligatoire, c'est un peu l'injonction paradoxale, c'est soit spontané, engage-toi pour aider ta société, et si tu ne le veux pas, tant pis, fais-le quand même. Brunette, si ça avait été obligatoire, vous l'auriez fait ?
Je ne pense pas.
Ça dépend des moments de vie aussi, j'imagine.
Je pense que c'est vraiment l'engagement volontaire qui m'a poussée à le faire, parce que je trouve que c'est vraiment super de proposer de faire un service citoyen d'une façon volontaire et que ce soit vraiment un contrat de volontariat et pas une obligation.
Vous étiez fière en fait de le faire aussi.
Oui, voilà, très très fière. Oui.
C'est ça aussi, Paul. C'est cette fierté d'avoir fait quelque chose de différent, d'y être arrivé et puis tout le reste après, finalement, c'était, je dis pas secondaire, mais c'était pas votre but premier, c'était vraiment d'être utile et de faire quelque chose pour la société, finalement.
Voilà, c'est ça, c'était vraiment me rendre utile et je veux dire, je l'aurais fait même s'il avait été obligatoire et de bon cœur. Mais je pense que c'est mieux pour les jeunes de rester volontaires et
pouvoir décider.
Ça prouve surtout leur motivation, je pense.
Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent, aux jeunes qui nous écoutent qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? En tout cas, vous leur diriez de le faire, vous, avec votre recul.
Je leur dirais de le faire, ouais. C'est une très bonne expérience qui leur apportera quelque chose sur tous les plans.
6 mois, c'est pas énorme.
C'est pas grand-chose.
Brunette, vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Je pense que 6 mois, c'est pas du tout énorme.
Ça passe même trop vite ?
Oui, ça passe vraiment, vraiment très, très vite. C'est vrai que les au revoir ont dû se faire dans beaucoup de tristesse et de joie aussi, surtout, parce que j'ai vraiment développé beaucoup de compétences. Quand je suis arrivée, j'avais vraiment besoin de les développer. Et c'est surtout toute cette connaissance sur les personnes qui vivent avec un handicapé qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup servi. Et donc voilà, c'est vrai que c'est assez peu, mais c'est quand même assez.
Merci à vous deux. François Ronvaux, pour terminer, l'avenir de cette plateforme, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour les prochaines années, où est-ce que vous en êtes ?
Alors, on va dire, il y a deux axes. Il y a l'axe du terrain d'opérationnel. Donc, on essaie d'une part de mettre en œuvre des services citoyens opérationnels en Belgique. Alors, aujourd'hui, le dispositif est reconnu à Bruxelles, sur la région de Bruxelles capitale. Je vous dis, il y a des promos qui démarrent régulièrement. Il y en a une qui démarrera sur Bruxelles dans début novembre. Et en Wallonie et en Flandre, après des années d'expérience pilote, le projet démarrera en 2016, et en Wallonie et en Flandre. Ça, c'est par rapport au terrain. Mais l'objectif, la finalité de la plateforme, je dis toujours, la finalité de la plateforme, c'est de disparaître. Pourquoi ? Parce que au profit d'une loi qui cadrerait un service citoyen à ce moment-là à grande échelle. Et donc, à ce niveau-là, donc nous faisons un lobbying auprès du monde politique. Nous avons rédigé une carte blanche et qui a été signée par une pluralité de personnalités politiques de toutes tendances confondues. Donc ça, c'était très encourageant. Et la prochaine étape, ça va être, on va dire, une concertation. On va dire un grand processus de concertation de toutes les entités fédérées et fédérales du pays autour de la question du service citoyen, parce que à entendre les différents partis, les différents ténors des partis, notamment ceux qui ont signé la carte blanche, la question du service citoyen n'est plus est-ce qu'il faut un service citoyen en Belgique, ça pratiquement tout le monde est d'accord, mais comment le mettre en œuvre? Et dans notre État, on sait bien qu'il y aura des collaborations, des coopérations entre le fédéral et les entités fédérées, mais comme elles sont nombreuses, que ce sont des matières personnalisables en partie, que les matières, les domaines d'action, les secteurs d'activité sont des matières plutôt régionales, et que le dispositif en lui-même est intrinsèquement une matière fédérale. Donc il faut faire collaborer toutes ces parties. Et ça, c'est vraiment l'objectif de la plateforme et le défi que j'espère le monde politique relèvera, à savoir que il y a quand même un exemple magnifique, c'est que le service citoyen, si vous voulez, a cette capacité à transcender les clivages des partis, et moi j'espère dans notre pays les clivages communautaires aussi. Et je prends l'exemple français. En France, une nouvelle loi a été votée en 2010, et cette loi a été baptisée le petit miracle républicain. Pourquoi ? Parce que majorité et opposition se sont mis, ont voté cette loi et lui ont permis de déployer le projet à grande ampleur et très rapidement.
Très bien, parfait. Mot de la fin. C'est un beau défi, on vous le souhaite. Mais voilà, vous êtes tout motivés, donc je pense que ça va aller. On en reparlera dans les prochains mois. Je vous remercie tous les trois d'avoir été là pour nous parler de ce service citoyen. François, on va quand même rappeler le site internet www.service-citoyen.be pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations ou 102 256 32 44. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Restez branchés pour la suite des programmes. À très bientôt et belle soirée à tous. United Nations.